la communauté CBC Makete Israël sous la direction de son pasteur Emmanuel Koum vous conduit tous les mardis entre 20h30 et 21h30 à une réflexion sur la vie chrétienne aujourd'hui. Au rythme de Dieu, que les messages, prédications, enseignements, débats, conférences, interactivités, le tout arrosé par de la très bonne musique. Notez le rendez-vous mardi de 20h30, 21h30. Venez et ensemble, marchons à la suite de Jésus.
La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin, et qui assume nos lendemains, pas à pas la main dans sa main, l'heureux voyage est pèlerin.
20h31 à Douala, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à cet autre rendez-vous. C'est notre rendez-vous au rythme de Dieu, un programme de la Cameroun Baptist Statue Convention, Église Israël Makete. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour un autre rendez-vous. Nous bénissons le Seigneur qui veille sur nous. Au rythme de Dieu, comme tous les mardis, 20h30, 21h30, c'est une heure pour découvrir la parole de Dieu, une heure pour nous laisser bâtir par les Saintes Écritures, une heure pour marcher à la suite de Jésus, comme elle annonce la bande, une heure donc au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'écouter un message ou un débat ou un élément pour votre édification. C'est avec l'équipe dans ce studio, le pasteur Emmanuel Koum. Bonsoir pasteur Koum.
Bonsoir pasteur Noé, bonsoir tous les auditeurs qui nous écoutent. Je suis content de vous rejoindre encore ce mardi, par la grâce de Dieu.
Voilà, puisque nous savons que mardi passé, et si passé n'était pas là, nous bénissons le Seigneur qui vous a ramené parmi nous pour pouvoir nous instruire encore ce soir. Nous vous rappelons que ce soir nous aurons l'occasion de parler d'un thème très très important. Le chrétien peut-il être triste? Oui. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui peuvent amener un chrétien à être triste? Et quelles sont les raisons pour lesquelles les chrétiens sont tristes aujourd'hui? Quel contraste nous aurons l'occasion de voir ce soir. Le pasteur Nwengachu a ce microphone, comme l'a dit le pasteur comme tout à l'heure. Et merci à vous tous d'être avec nous ce soir. Nous allons adorer le Seigneur par cette chanson à l'agneau.
Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur qui est bon pour nous. Et qui nous pose de son amour de sa grâce. La nation entière pour prendre sa grandeur et sa majesté, sortir du ciel et apprendre le Seigneur. La nuit a été noyée, digne de recevoir la gloire, la gloire, l'honneur, la puissance et la sagesse, tout ce que je reçois. C'est la cité. La grâce est chemin de l'homme par la nature. Merci Seigneur parce que c'est celui qui est au-dessus de toutes choses. Et en fait de nous aujourd'hui, tu nous donnes de pouvoir encore goûter à ces bons souvenirs. C'est dans la reconnaissance de notre cœur, Seigneur. Et la bénédiction de notre cœur, Seigneur. Nous voulons reconnaître tout ce qui vient de dans nos vies. Reconnaître que tu es Seigneur. Et en dehors de ta maman pour vous. Pas un grand, ça y va. Merci. Bien-aimé, adore le Seigneur. Prenez sa grandeur et sa majesté. Ne faites pas ta majesté. C'est pas souvent que tu mets dans ta prison. Ce que nous voulons te dire. Entre dans la prison du Seigneur. Avec ta nature entière, oui, ta grandeur, Seigneur. Ta sérénité. Oui, Seigneur. béni au nom de Jésus.
Oh, à toi la gloire, Seigneur. À toi la majesté, je crois. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas venir en humilité devant toi pour t'offrir un sacrifice de louange, de reconnaissance? Toi dont la pureté, toi dont la sainteté est inégalable. Toi qui seul est digne de prendre le livre d'en rompre les sceaux. Toi qui seul a été trouvé digne de venir comme un homme sur la terre afin de prendre les péchés de l'humanité. Seigneur, tu es venu et tu as marché comme le seul juste. Et c'est notre Dieu, quelqu'un pouvait encore dire dans ta parole, il fallait qu'un seul homme meure pour le salut du peuple. Et toi, tu es celui qui a accepté cette tâche difficile, en venant vers notre Dieu, en marchant au milieu de nous, souffrant la famine, souffrant la fatigue, souffrant, Seigneur notre Dieu, l'angoisse. Seigneur, tu es allé jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, Seigneur, tu as reçu le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Ce nom devant qui nous fléchissons les genoux ce soir pour reconnaître la seule autorité, la seule puissance. Seigneur, c'est ta parole qui est la vérité. Et ce que toi tu déclares est ce qui est vrai. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons tous les jours de notre vie nous approcher de toi et reconnaître que toi seul es Dieu. Amen. Seigneur, nous nous sommes laissés tromper dans le passé parce que ce monde nous offrait. Mais quand nous avons découvert c'est notre Dieu, nous avons vu des choses nouvelles. Seigneur, nous sommes devenus des esclaves de ta parole. Parce que toi, c'est notre Dieu, lorsqu'on est avec toi, même ton esclavage est un esclavage libre, parce que nous sommes heureux de te servir. Seigneur, c'est avec joie que nous venons dans ta présence ce soir, et pour laquelle nous disons alléluia et gloire à toi. Merci, c'est notre Dieu, pour le sacrifice que tu as consenti pour mes péchés. Merci pour le sacrifice que tu as consenti pour les péchés de mon frère. Seigneur, nous étions tous perdus, mais toi, tu as donné un sens à nos vies.
Amen.
Merci ce soir encore.
Merci,
oh, merci.
Merci.
Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, dans les lieux, Seigneur. Merci de prendre le contrôle de ce moment, Seigneur. Merci de nous conduire pendant cette émission ce soir.
Oui.
De vous parler tout ce que tu nous dis tout à l'heure. Pour cela, ta parole, la parole de ton amour. Je défie encore les hommes et les femmes qui nous écoutent ce soir. Sois béni, notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus.
D'être avec nous ce soir encore au rythme de Dieu jusqu'à 21h30. Merci à vous qui prenez l'écoute à cet instant. Vous êtes avec l'équipe de la Cameroun Baptist Convention, Église Israël Makété. Et ce soir, nous vous proposons de vous encourager dans un thème de discussion. Vous, à la maison également, vous pourrez réagir par les différents contextes. Le 93 47 31 32, le 79 40 42 42, et le 33 05 80 59. Voilà nos différents codexés dans ce studio. Alors la question de ce soir: le chrétien peut-il être triste? Oui, pourquoi? Quelles sont les causes de la tristesse chez le chrétien? Alors, peut-être pasteur, comme commencer ce soir par définir la tristesse, puisque nous parlons de la tristesse. Très souvent, quelqu'un plie un peu la face, ou il reste un peu dans son coin et on dit il est triste, ou alors qu'une situation une situation l'a abattu, il est resté dans son coin, on dit qu'il est triste. On a juste une expression de visage qui permet de définir
que quelqu'un est dans un certain état dû à une certaine circonstance.
Oui, effectivement, c'est pas l'expression du visage qu'on peut se dire si une personne est triste ou pas. C'est vrai que la tristesse peut prendre son origine dans le cœur, là ça devient très difficile à pouvoir être gérée, et elle peut aussi prendre son origine juste dans une ligne extérieure, sans que cela n'affecte nécessairement le cœur, sans que cela n'affecte nécessairement le cœur, c'est-à-dire que un enfant quand il est grondé par exemple, peut être aussi, sans que cela,
c'est tout simplement partagé.
Quelque chose de partagé. Voilà.
Comme on peut aussi feindre d'être triste.
On peut aussi feindre d'être triste, effectivement, pour attirer un peu les regards des autres, la compassion des autres. Voilà. Donc, la tristesse, ça existe. On peut, quelqu'un, souvent, on a l'impression qu'on est des super-hommes, pour ne pas pouvoir avoir tous ces sentiments, qui sont des sentiments humains, vrai et réel, et qui exprime véritablement des choses dans nos vies.
Voilà. On sait que l'âme est le siège des émotions, et qu'on peut ressentir un certain nombre de choses, on peut ressentir la fatigue, on peut ressentir de la joie, de la paix, on peut ressentir tous les sentiments qui existent dans le monde peuvent être ressentis par un homme et par un chrétien. Alors, il est homme, il est chrétien. Ça veut dire que son âme peut donc exprimer ces choses. Mais nous voulons donc nous attarder ce soir sur la question de la tristesse. D'office, un chrétien peut être triste. On a dit oui, il peut être triste. Mais maintenant, à savoir de quelle tristesse on parle, quels sont les actes, les choses qui peuvent l'amener à être triste, et sur quelle durée aussi, parce qu'il faudrait, quand on en parle, est-ce que c'est une expression passagère, est-ce que ça peut prendre du long terme, on en parle ce soir. Notre Tarkoum
Nous voulons dire déjà qu'il y a une tristesse qui est une tristesse qui vient, qui est normale, spirituelle, si on peut le dire comme ça, parce qu'elle découle de la vie chrétienne normale, et il y a une tristesse qui est purement mondaine, parce qu'elle découle du monde, on va parler de ces deux choses. Donc, le chrétien, comme tu demandais, qu'il peut être triste, mais de quelle tristesse s'agit-il, et pourquoi peut-il être triste?
Peut-être commencer par évoquer les causes pour lesquelles un chrétien peut être triste. Peut-être qu'on va déjà voir des cas tels que la Bible nous les enseigne.
Nous pouvons déjà commencer à voir avec Néhémie un genre de tristesse dans lequel peut se retrouver le chrétien. Dans Néhémie chapitre 2 versets 1 à 3, nous allons lire Néhémie chapitre 2, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en ta présence. Il me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, tu n'es peut-être qu'un chagrin de cœur, et je suis celui d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, que le roi dise éternellement, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que les portes sont consumées par le feu? Bon, si nous revenons déjà à la définition que nous donnons aujourd'hui, et nous pouvons dire que la tristesse, c'est quand on a un mauvais visage, quoi, quand on a
une mauvaise mine,
c'est comme nous le disions. Mais si nous voyons la raison qui avait poussé Néhémie à avoir mauvaise mine, il dit, comment n'aurais-je pas mauvaise mine lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que les portes sont consumées par le feu? Nous voulons voir la ville de Jérusalem, la ruine de la ville, la ruine de ce qui fait le fondement de la vie d'Israël. Et on peut donc penser déjà, parce qu'on le verra, la restauration du temple, la restauration de tout ce qui faisait
les murailles de Jérusalem,
voilà,
le construit.
Tout ça, les murailles de Jérusalem, la ville de Jérusalem qui était la ville de Dieu, et puis le temple et tout, tout a été détruit. Et alors Jérémie avait mauvaise mine, parce que en fait, ce qui fait la force spirituelle d'Israël était totalement détruit. Et cela nous renvoie donc à l'une des raisons qui peut amener le chrétien à pouvoir être triste, la ruine de l'Église et la ruine des enfants de Dieu. Et nous nous rappelons que Jésus lui-même a pleuré, quand il a vu Jérusalem, quand il a vu Jérusalem dans l'état de délabration, de péché dans lequel il était, Jésus s'est mis à pleurer, il dit qu'il
avait été visité.
Oui. Donc en fait, ce qui peut amener les chrétiens à être tristes, c'est de voir la situation réelle de l'Église. C'est-à-dire que ça va directement dans son cœur et ça l'amène à pouvoir se poser pas mal de questions et
à être triste et à chercher comment résoudre la situation. Mais c'est pas ce qu'on voit beaucoup, Master Combe, parce que les gens rient plutôt quand ils voient d'autres se détruire. Quand deux frères sont en conflit, au lieu de ce que ça amène la tristesse parce que deux frères sont en train de se détruire, les gens rient, ils se moquent, et au lieu de que ça les rend triste, qu'ils aillent dans sur leurs genoux, qu'ils commencent à pleurer, parce que dans le cas de Jérémie, après il va commencer à implorer la grâce du roi pour aller
reconstruire
la tristesse qu'il avait au fond de son cœur pour la ville, l'a poussé à l'action, à une action pour le salut de la ville, pour la reconstruction. Par contre, c'est pas véritablement ça que nous voyons aujourd'hui. La ruine de l'église, l'église en train de se détruire, mais les gens ne sont pas tristes.
Non, pas du tout. Que ce soit les gens qui sont dans la même église et qui voient comment les choses sont en train de mal se passer, non pas du tout, ils sont pas tristes. Ils sont plus en train de parler, de pouvoir accuser et de pouvoir à s'en aller, quoi. Ça c'est pas leur problème, la ruine de l'église des autres frères, c'est pas leur problème. On se réjouit plutôt et on dit des choses. Mais nous voulons dire que ce qui a été la force de Jésus, c'est de quand son peuple périssait, la tristesse gagnait son cœur. Parce qu'il n'aimait pas voir la créature que lui il a créée, si je peux me répéter, de pouvoir aller vers la perdition. Le chrétien doit aujourd'hui être triste à cause de la ruine de l'église, à cause de la vie de sa famille, à cause de la vie des frères et des sœurs, à cause de ceux qui rentrent dans le péché. Ça doit être plutôt une tristesse, pas un moyen d'accusation, pas un moyen de rire, mais plutôt une tristesse véritable qui va pousser la personne même à avoir le désir de réparer les brèches, le désir de reconstruire le temple, le désir de faire quelque chose de véritable dans cette église qui est en train de dépérir aujourd'hui dans le Cameroun.
Alors, on va voir donc Jérémie qui, il faudrait pas l'oublier, il est au palais du roi, ça veut dire qu'il est censé être dans un véritable confort, donc en réalité il n'a pas besoin que Jérusalem soit en bon état ou en mauvais état. Ça ne devrait pas être un problème en réalité pour lui, mais au sein de toute l'abondance qu'il a, au sein de tout ce qu'il peut avoir, il se soucie de l'état de l'église, il se soucie de l'état de Jérusalem. Et pour nous dire aujourd'hui que ce n'est pas parce que nous sommes dans la destruction que nous devons nous soucier de la destruction, même si nous sommes bien, parce que d'autres vont citer le verset sortant du milieu d'eux, et le Seigneur nous accueillera. Et vous dire, bon, s'ils veulent se détruire,
ils n'ont qu'à
se détruire, nous on est bien. Mais Jérémie, dans sa situation, jusqu'il soit dans le confort, il se soucie de comment est la ville de l'Éternel, comment est l'église du Seigneur. Ça devrait nous amener à être triste quand nous voyons des situations qui ne marchent pas et nous amener à la prière. C'est pas ça, quoi?
Oui, et puis, comme tu dis, Pasteur Noé, nous allons le voir même dans les prédications des hommes de Dieu, et surtout pour rejeter ceux qui, entre guillemets, sont tombés. C'est pas, en fait, pour pouvoir prendre en compte le mal, la souffrance de cette personne sur le plan spirituel. Donc c'était véritablement dangereux. J'ai bien aimé ce que tu dis. Jérémie était dans son confort. Mais sa mine était triste parce que c'était même pas les juifs de là où il était, c'était la ville de ses pères. C'était l'église de Christ qui est détruite. L'église de Christ qui ne marche pas, cela devrait nous amener vraiment à être triste. La deuxième raison qui avait poussé, qui peut pousser le chrétien à être triste, en dehors de la destruction des âmes, de la destruction de l'église aujourd'hui, nous pouvons lire dans le livre de Job.
Job chapitre 30, verset 25.
Job chapitre 30, verset 25.
N'ai-je pas des larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent?
Oui. N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? Nous voyons Jérémie aussi qui pleure, Job, qui pleure
à cause du pauvre.
À cause du pauvre. À cause du malheureux, à cause de l'indigent. Et si nous pouvons prendre cela dans les deux domaines, indigence spirituelle comme indigence matérielle, nous allons nous rendre compte que nous aboutissons à la même chose. Nous aboutissons à voir des gens qui, à voir quelqu'un qui prenait en compte le peuple de Dieu. Et si nous avons parlé de l'Église en général, nous allons parler de l'état spirituel de l'Église. Mais maintenant, nous voulons parler de la vie de l'individu. La vie de l'individu intéressait Job, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Ça fait donc que Job, quand il était dans son église et qu'il voyait qu'il y avait un pauvre, quelqu'un qui ne mangeait pas, cela ne le laissait pas indifférent. Le problème pour lui, comme nous avons encore dit pour Néhémie, il était dans sa richesse. Il aurait pu ne pas s'occuper des autres. Il se suffisait en lui-même. Nous nous rappelons qu'il disait qu'un jour qu'il était les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. Ça veut donc dire que les personnes là intéressaient vraiment Job. Et quand il rencontrait un malheureux, en fait, je ne vois pas pourquoi il devait être triste. Il devait peut-être lui donner de l'aumône et puis passer son chemin. Mais non, il prenait partie de la souffrance de cette personne, et la souffrance de cette personne devenait sa souffrance.
C'est pourquoi il ne pouvait dormir, il pouvait se relâcher que s'il avait accompli tout ce qui était nécessaire pour voir cette personne être sortie de cette situation. Parce qu'aujourd'hui, on va se contenter de faire quelque chose de ponctuel et de passer, mais la compassion ou la tristesse qui est née de ce qu'on a vu quelqu'un souffrir ou de ce qu'on a vu quelqu'un dans la douleur ne va même pas nous laisser dormir. Parce que si on est véritablement triste pour la personne, chaque fois qu'on sera chez soi, on va penser à comment cette personne, comment est-ce qu'elle a évolué aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui, et on aura des tests que d'aller faire quelque chose pour l'épanouissement de cette personne. Une tristesse qui est née de ce que on se met à la place de la personne. Ici, c'était moi. Comment est-ce que je réagirais? Comment est-ce que je me comporterais? Comment est-ce que je serais? Et parce qu'on a la possibilité de le faire, même avec le peu qu'on a, parce que certains vont croire, à force que nous parlions comme ça, que ce n'est que ceux qui ont beaucoup
qui doivent donner à ceux qui n'en ont pas.
Donner aux malheureux ou à l'indigent. Non, il s'agit de découvrir en soi la capacité qu'on a pour faire quelque chose, et de le faire simplement parce qu'on ressent dans son cœur de l'amour et de la compassion pour la personne.
Et quand on parle même de faire fort, nous voyons qu'on le verra plus tard, l'apôtre Paul est entré dans une forme de tristesse à cause de sa folie qui était malade. Tu vois, le simple fait de voir un frère qui est malade, qui est dans une incapacité, doit amener le chrétien à pouvoir être triste, à prendre sa place, comme tu disais. Et puis, ça c'est la même chose, même une indigence spirituelle. C'est ça surtout qui est très difficile. Un frère qui, disons, est tombé dans l'adultère, est malade. Un frère qui est vraiment, quand je dis frère, ça veut dire que je reconnais que ce garçon
a donné
sa vie au Seigneur et il avance avec le Seigneur. Mais, dès qu'il a trouvé le travail, il est entré en lui comme une forme de cupidité. Cela ne doit pas me pousser aux commentaires, mais cela doit plutôt me pousser à la tristesse. À me rendre compte qu'une âme de l'Éternel est en train de se perdre. Hein? Mais très souvent, cela ne nous pousse pas à la tristesse. Ça nous pousse beaucoup plus au commérage. Ça veut donc dire que nous n'avons même pas l'intérêt de la survie spirituelle de beaucoup de nos frères. Or,
le chrétien doit être triste pour les frères, pour les sœurs qui sont dans des situations délabreuses et puis qui ne vivent pas, je ne sais pas moi, dans une vie chrétienne telle que le Seigneur aurait voulu, et demeurer dans la prière pour eux. Je me rappelle Samuel qui pleurait pour Saül. Donc c'est une chose qui manque aujourd'hui à l'église personnelle.
Donc on ne devrait pas vivre de façon indifférente. Donc, la situation du prochain, la situation du frère, ne devrait pas nous laisser indifférents. C'est-à-dire que quand nous voyons un frère à côté de nous, que ce soit sur le plan spirituel, parce que peut-être qu'il est faible dans la foi, cela ne devrait pas nous laisser indifférents. Que ce soit parce qu'il n'a pas suffisamment de quoi se vêtir ou de quoi manger, ça ne devrait pas nous laisser indifférents. Parce qu'on a pitié de lui, parce qu'on a pitié du malheureux. Et l'une des choses qui est très importante, c'est que le Seigneur prend le pauvre et le malheureux pour en faire sa propriété. C'est-à-dire que, il s'occupe, il s'inquiète du malheureux. Et si nous entrons dans le ciel de ce que nous voulons avoir la pensée de Dieu par rapport à cette personne, parce que l'une des choses importantes, c'est quelle est la pensée de Dieu par rapport à cette situation. Quand Dieu est en face du malheureux, qu'est-ce que Dieu pense? On avait dit que Dieu se soucie du malheureux. C'est pourquoi qu'il va dire plus tard que celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel.
Voilà.
On avait dit qu'en face d'une telle situation, je dois me dire, ça préoccupe tellement Dieu qu'il choisit de prendre la dette du malheureux. Alors, à ce moment, ça doit me pousser à voir la situation et dire, attention, ça c'est une situation qui doit me préoccuper. Donc, c'est un élément très important. Ne pas être indifférent face à la souffrance, à la misère, ou même au péché de mon frère.
De mon frère, voilà. Donc, ne pas être indifférent face à toutes ces choses. Voilà encore une chose qui pouvait rendre le chrétien triste. La situation spirituelle des frères, la situation spirituelle et matérielle des frères. Et nous voulons encore reconnaître que c'est quelqu'un qui était matériellement riche, qui devenait triste, et qui devenait triste véritablement, parce qu'il avait vu un pauvre. Et la troisième raison pour un chrétien, qui peut amener le chrétien à être triste, parce qu'on est, on peut lire dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 30 à 38, nous allons voir une des raisons qui peut amener le chrétien à pouvoir être triste. Matthieu 26.
Matthieu chapitre 26, du verset 30 au verset 38, il est écrit: après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, cette nuit, même avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Pierre lui répondit: même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi.
Amen. La tristesse face à son destin spirituel, la tristesse face à ses douleurs et à sa souffrance, la tristesse face à sa vie pour la gloire de l'Éternel. Beaucoup de chrétiens ont comme l'impression que quand je perds un bien-aimé, je ne peux pas pleurer, Jésus a pleuré. Mais la Bible nous enseigne ici que une chose qui peut rendre le chrétien triste, c'est quand il est dans la marche avec Dieu. Les souffrances, les douleurs et les difficultés au travers desquelles il peut passer peuvent le rendre triste, même le Seigneur Jésus. Et la Bible dit ici, Jésus a commencé à éprouver les angoisses. Les angoisses, c'est au-delà de la tristesse. C'est au-delà de la tristesse. Nous pouvons voir que le Fils de l'homme lui-même a été habité par des sentiments humains les plus profonds et les plus difficiles. Donc, bien aimé, Voilà encore une autre raison qui peut rendre le chrétien triste. Et nous allons nous rendre compte que la tristesse du chrétien va venir par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport au ministère de l'Éternel, par rapport au succès de cette œuvre et aux difficultés par lesquelles il devra passer pour pouvoir accomplir et réaliser ces choses. Nous devons être tristes quand nous nous rendons compte que nous l'avons vu déjà, l'œuvre de Dieu ne marche pas, que Jérusalem est détruite. Nous pouvons donc comprendre aujourd'hui que les épreuves et les difficultés par lesquelles nous passons, Pasteur Noé, peuvent nous amener à être vraiment tristes et à demander au Seigneur de cette réponse.
Ah, donc, ça c'est une chose pour laquelle, parce que quand nous passons par la souffrance, on peut pas être heureux si on souffre. La personne n'a jamais reçu un coup de fouet répété et il commence à rire pour se moquer du coup de fouet. Le coup de fouet d'abord ça fait mal et ça rend triste. Mais peut-être la chose qu'on va préciser c'est que la tristesse que nous ressentons dans notre personne physique n'enlève en rien que on a une joie interne qui demeure, mais la tristesse qu'on a sur le visage parce que les situations, parce que j'ai passé une journée sans manger, parce que j'ai été fouetté, parce que j'ai été en prison, cela me rend forcément triste parce que c'est des choses que je dois endurer pour le royaume. Je dois subir ces choses à cause du royaume. Parce que quand le Seigneur dit, prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Christ, quand l'apôtre Paul le dit à Timothée, il ne lui dit pas que la souffrance est quelque chose de facile. Non, la souffrance, porter ta croix, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui amène la tristesse, mais aucune tristesse, comme on va peut-être le voir à la suite, ne pourra enlever la joie du salut que nous avons au cœur de notre cœur. Hein.
Donc nous disons donc que quand on voit le ministère dans lequel le Seigneur nous a donné, comme aujourd'hui le ministère du salut dans lequel le Seigneur nous a donné, et que tout ce que, avec tout ce que cela peut appeler comme souffrance, et comme difficulté, nos cœurs peuvent être attristés, de nous rendre compte véritablement que nous devons passer par ces difficultés, par ces épreuves. La Bible nous enseigne que nous pouvons être attristés dans le cadre spécial de l'accomplissement de notre ministère. Ça fait donc trois causes pour lesquelles nous avons parlé qui peuvent être les causes de la souffrance, de la tristesse du chrétien, c'est-à-dire la ruine de l'Église, la ruine des frères, les frères qui rentrent dans le monde, les frères qui vivent dans le péché, enfin qui sont tombés dans le péché, ça doit attrister le chrétien et l'amener à pouvoir pleurer devant le Seigneur comme Jésus a pleuré à Jérusalem. La personne du pauvre, la personne de l'indigent, du malheureux, qui est dans l'église, qui n'a peut-être pas d'amis, qui n'a peut-être pas un moyen pour pouvoir subvenir à ce besoin, doit attrister le frère. Et dans l'exercice de notre ministère, nos épreuves, nos difficultés peuvent nous rendre tristes. Mais est-ce que cette tristesse du visage, Pasteur Noé, a un lien avec la paix de notre cœur?
Non, comme je le disais bien évidemment tout à l'heure, la tristesse pour un début est beaucoup plus dans le physique, dans l'expression de ce que l'on ressent, dans les sentiments, mais ça n'enlève en rien parce que lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, que nous l'avons accepté dans notre vie, l'acceptation du Seigneur vient avec le Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit, tels que le déclare la parole de Dieu dans l'Épître de Galates chapitre 5, verset 22, c'est que le Saint-Esprit produit la joie. Le Saint-Esprit produit la paix. Le Saint-Esprit produit l'épanouissement. Ça veut dire que dès que ces choses sont ôtées de moi, veut dire que je n'ai plus le Saint-Esprit qui produit ces choses. Or, l'expression du visage, c'est quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire c'est extérieur à moi, mais la paix de Dieu dans mon cœur demeurera toujours. Dieu ne nous a pas promis des difficultés, qu'il n'y aurait pas de difficultés. Il n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de souffrance, mais il a dit qu'au cœur de cette souffrance, au cœur de cette difficulté, il nous donne sa paix.
C'est ça, ça veut donc dire qu'avoir mauvaise mine, parce que, au nom de Jésus-Christ, on vient de brûler mes habits, je peux avoir mauvaise mine. Je me pose la question, pourquoi est-ce que il peut faire cela, mais cela n'a rien à voir avec la paix intérieure que je peux garder. Et le livre d'Ecclésiaste nous donne une explication dans ce sens. Dans Ecclésiaste chapitre 16, la Bible dit « Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. » Ça, c'est assez amusant. Le visage est triste,
le cœur est content.
Mais le cœur est content. Le cœur est content, comme disaient les apôtres, d'avoir été frappé au nom de Jésus-Christ.
Mmh.
Hein, le cœur est content, parce que là, je sais que trouver digne d'être frappé au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons deux attitudes ici. Une attitude pour laquelle le cœur est vraiment triste.
Mmh.
Mais les gens passent leur temps à rire et à jubiler comme si tout allait bien. Et ça, c'est ce que nous retrouvons parfois dans le monde.
Beaucoup d'hypocrisie.
Beaucoup d'hypocrisie, et même dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que le cœur est triste parce que le frère a réussi à son examen, parce que le Seigneur est en train d'accorder ses grâces dans telle famille, parce que le Seigneur est en train de faire ceci, et par jalousie donc, ça c'est pas une question de qui vient de Dieu, nous voulons dire. Par jalousie donc, mon cœur est triste, hein, mais quand je vois le frère, je pleure de rire. Mais je sais moi-même au-dedans de moi que je suis triste parce que je me demande pourquoi c'est lui qui doit recevoir les bénédictions et pas moi. Voilà des cas dans le monde, ce sont vraiment tristes à cause de tout ce qu'il y a comme déboire, tout ce qu'il y a comme destruction, tout ce qu'il y a comme déception. Les gens sont tristes, mais ils trouvent quand même le moyen de rire. Ils trouvent quand même le moyen de chanter, ils trouvent quand même, mais eux-mêmes ils savent que dans d'eux, ils ne sont pas bien. Mais de l'autre côté, l'Ecclésiaste nous dit que quand un visage triste, avec un visage triste, le cœur peut être content. Ça, c'est vraiment merveilleux. Avec un visage triste, on ne perd pas la joie du salut. On peut avoir un visage triste parce que on sait qu'on va nous flageller maintenant, mais on ne perd pas la paix qui vient de Dieu.
Parce qu'on a la vie de Dieu en soi. Pardon. Je suis en train de vouloir dire que lorsqu'on a cette tristesse dont nous étions en train de parler tout à l'heure, nous en développions déjà, cette tristesse nous pousse à la réflexion. Parce que c'est une tristesse, parce que lorsqu'on est triste, par exemple, dans le cas du malheur, c'est pas qu'on a perdu notre paix intérieure. C'est que cette paix est là, mais on se soucie de la situation de celui qui passe par ces années. Ou alors on se soucie de la situation de notre vie dans laquelle nous devons faire face. Et ça nous pousse à la réflexion. Et on ne s'arrête pas à la réflexion, ça nous pousse aussi à l'action. C'est pour ça que malgré la tristesse que nous pouvons avoir de voir un malheureux, notre effort de résoudre la situation nous permettra de garder toujours le cap. Parce que la paix intérieure que nous avons autour de nous va réjaillir à l'extérieur et produire une véritable transformation. Parce que nous avons saisi le Seigneur au fond de notre cœur.
Et cette paix est la preuve de la présence du Seigneur qui est avec nous au milieu de nos difficultés et dans la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver. Cette paix intérieure est l'indicateur de la gloire de Dieu qui repose en nous. Donc en fait, frère, tu peux être triste, ça c'est pas une mauvaise chose, mais si maintenant ta tristesse t'amène dans une situation dans laquelle tu as perdu ta paix, c'est à partir de ce moment que tu te retrouves dans les difficultés.
Je dis qu'aujourd'hui, on a fabriqué, beaucoup d'hommes de Dieu ont fabriqué les attitudes, ont fabriqué des chrétiens hypocrites. Parce que cette hypocrisie, quand on dit à des gens que vous êtes malade, non, ne confessez pas que vous êtes malade, dites pas que vous souffrez, vous ne souffrez pas,
non,
nous ne souffrons pas, vous n'êtes pas en train de souffrir, c'est juste un état temporaire ou passager. La personne souffre au-dedans d'elle-même et on l'impose de rire et de sourire. À ce moment, elle fait semblant, c'est-à-dire qu'elle va être dans un milieu parce qu'elle ne peut pas exposer la difficulté dans laquelle elle se trouve, parce qu'elle ne peut pas exprimer la souffrance et la douleur de son âme. Elle va sourire et elle va être triste au fond d'elle-même.
C'est pour ça
que beaucoup vont être au milieu des frères. Mais après, on se rend compte qu'elles ont tellement dégringolé sur de longues distances. Or, elles étaient au milieu, elles souffraient, mais étouffées par l'état des autres, dont on a dit, c'est le riz, c'est la joie, alléluia, on est dans la joie. Ça va faire que elles ne sont pas vraies dans leur personne et la destruction suit. Or, cette tristesse, comme on verra certainement tout à l'heure, cette tristesse devrait amener à pouvoir résoudre le problème qui, véritable qui est dans la vie de la personne. Mmh. Et pour pouvoir, parce que si on est triste à cause du péché, on va voir la tristesse du péché, si on est triste à cause du péché, et qu'on ne le fait pas voir, et qu'on ne montre pas que quelque chose nous a détruit, quelque chose nous a atteint, alors on va jouer l'hypocrite en disant que tout va bien. Bien aimé, est-ce que tu vas bien? Tout va bien. Et la chose va n'aller que croissant jusqu'à la destruction totale.
Donc,
il y a cette hypocrisie dans laquelle on maintient beaucoup de personnes.
Et je me rappelle une fois, nous étions à un deuil, une soeur qui était morte, et puis ses enfants étaient en train de pleurer, on leur disait non, ne pleurez pas, votre maman est au ciel, et puis elle avait une enfant de 10 ans, et après, comme l'enfant ne pleurait pas, on disait, oh, elle est bien forte, oh, elle prouve que c'est avec elle. Non, mais c'est pas une... Le Seigneur peut être avec toi, et puis tu pleures. Et ta mère est morte. Hein. Tu ne vas plus avoir ta mère. Ton père est mort. Tu as perdu 100 000 francs, Donc tu peux avoir mauvaise mine parce que tu as perdu 100 000 francs, mais cela ne va pas enlever la paix et la joie que Dieu a mise au-dedans de toi, parce que tu sais que tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ça n'empêche pas que la perte de 100 000 francs, là, à ce moment précis, va créer en toi une forme de tristesse. C'est la raison où j'ai dit avec toi, Noé, que souvent on fabrique des robots, on fabrique des gens qui, des automates, tu vois. C'est des gens qui sont plutôt qui vivent par des attitudes et qui ne sont pas réels. Je me rappelle un jour, j'avais eu un problème difficile et puis les larmes ont commencé à couler. Et puis un bien-aimé me dit, mais écoute, tu pleures. Je dis, mais laisse-moi pleurer. C'est la situation qui m'amène à pleurer. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas en communion avec le Seigneur, mais non. Laisse-moi pleurer parce que ce qui se passe m'a fait mal. Ce qui se passe.
Et puis il faudrait que nous comprenions que le Seigneur n'a pas promis que toutes les larmes seront essuyées sur la terre. Toutes les larmes seront essuyées dans le ciel avec le Seigneur. C'est dans le ciel que le Seigneur dit qu'il essuiera toutes nos larmes de nos yeux. Il n'y aura plus ni cri ni douleur. Mais pour l'instant, il y aura des cris et des douleurs, parce que ces souffrances sont réelles. Et nous sommes dans l'être physique, l'être charnel, qui éprouve un certain nombre de douleurs qui amènent la tristesse, forcément.
Et donc, en conclusion, par rapport à ça, nous allons dire que le chrétien peut être triste par rapport à l'œuvre et à tout ce que nous sommes en train de dire, mais ce qui va prouver au chrétien que sa tristesse n'est pas du monde, c'est que son cœur reste dans la paix,
amen.
Son cœur reste dans la joie, son cœur reste dans la communion, même s'il a une mauvaise mine. Mais maintenant, si ton cœur n'est pas dans la paix et que son cœur n'est pas dans la joie et la communion avec le Seigneur, ça veut dire que cette tristesse n'est pas une tristesse qui vient de l'Éternel et n'est donc pas pour les choses de l'Éternel.
Royaume.
N'est pas pour les choses du royaume. Parce qu'une tristesse qui vient pour les choses du royaume amène la personne à garder sa paix et sa joie. Et la communion avec le Seigneur.
Ça nous permet de voir le Seigneur qui malgré tout, comme nous en parlions déjà, dans la situation du jardin de Gethsémané, va avouer donc sa tristesse à ses disciples, mais il va toujours garder le cap, le désir d'aller jusqu'au bout de la mission, le désir de faire la volonté de Dieu jusqu'au bout, parce qu'il sait la raison pour laquelle il est venu. Il dit que son âme est triste jusqu'à la mort, mais ça n'empêche pas que il dise à Dieu que ta volonté soit faite. Que cette coupe s'éloigne de moi, non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. Le désir d'aller jusqu'au bout. Si on est triste et qu'on abandonne en chemin, ça veut dire qu'on n'était pas dans la bonne tristesse.
On n'était pas dans la tristesse de Dieu. Cette tristesse qui te permet de garder la communion. Et même que le Seigneur peut permettre que la tristesse soit croissante. C'est-à-dire que tu peux avoir des événements alignés qui amènent ta vie à être dans la tristesse, mais tu gardes toujours la paix et la communion avec Dieu. Par exemple, dans Philippiens 2, versets 27 et 28, la Bible nous parle de Paul. Hein? L'apôtre Paul avec son ami Epaphrodite. Et Paphodi qui était malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Bon, les premières tristesses sont peut-être venues des flagellations, sont peut-être venues des manques et tout, mais cette fois-ci, Dieu a compris que on ne doit pas aller de tristesse en tristesse. Mais cela n'a pas permis à Paul de perdre sa relation avec le Seigneur. Très souvent, donc, quand nos épreuves et nos difficultés nous amènent à perdre notre relation avec le Seigneur, ça veut dire qu'il faut revoir, en fait, pourquoi est-ce que nous sommes cette personne nouée.
Donc, nous pouvons donc comprendre que on a deux types de tristesse. On a une tristesse qui est produite par des choses qui sont purement spirituelles, par notre croissance avec par notre marche avec le Seigneur, par l'orphelin, par l'indigent tel que nous avons vu tout à l'heure. Mais comme nous avons dit, toute cette tristesse nous amène à une action, toute cette tristesse nous amène à avancer, pas à régresser. On ne voit pas le malheureux et puis on dit tant pis, et puis on passe, mais ça nous pousse à avancer, à faire un pas de plus. On ne s'arrête pas à dire je suis triste et je fais quoi, quelle action je pose pour la gloire du Seigneur.
Amen.
Et quand on est passé par cette tristesse, gardant le cap, gardant la paix de Dieu au fond de nous, parce que la paix de Dieu qui suit pas toute intelligence, comme dit l'apôtre Paul, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On est triste, mais on n'a pas perdu la foi. On n'a pas perdu la conscience dans le Seigneur. Parce qu'au sein des difficultés, nous savons que notre Dieu continue à agir. Vous êtes sur la fréquence de vie, 107.8 FM. Vous écoutez le programme Au rythme de Dieu jusqu'à 21h30. Si vous avez une question, sentez-vous libre de nous appeler ou de nous envoyer des messages. 93 47 31 32 79 40 42 42. Maintenant, Pasteur Comte, parlons de la tristesse qui engendre la repentance, par exemple.
Oui, nous pouvons dire que quand on a péché contre Dieu, comme David, on pouvait le lire dans le psaume 37-37, son péché le rendait triste. Mais, il dit, il est allé vers l'Éternel et il a confessé son péché. Vous voyez, la Bible nous enseigne que la tristesse, si on est dans le péché, et si nous sommes soumis au Seigneur, la tristesse que le péché va créer en nous va nous pousser certainement à la repentance, selon 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 9 à 11. Hein, qui nous montre que la tristesse selon le Seigneur pousse à la repentance. Nous regardons encore aujourd'hui pour dire que le chrétien peut être triste. Et s'il est véritablement enfant de Dieu, tout péché va le pousser à la tristesse et donc à la repentance. Nous allons donc voir difficilement les vrais enfants de Dieu commencer à s'accuser les uns les autres. Parce que dès lors que j'ai fait quelque chose qui est contre la volonté du Seigneur et que mon âme en souffre, immédiatement je deviens triste pour la repentance. Ça fait donc que il serait difficile que vous entrez dans une église à des véritables enfants de Dieu où les gens ne se sont pas pardonnés. Parce que chacun pour sa part entre dans une forme de tristesse à cause de son péché. Et la tristesse selon le Seigneur nous amène immédiatement à la repentance. Bien aimé, ça c'est encore pour te dire que si tu te plais et te complais dans la vie dans laquelle tu es, et que tu continues à faire des choses en cachette, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'a pas créé en toi la tristesse qui vient de Dieu. Et tu as besoin véritablement d'être dans une communion avec le Seigneur. Mais si tu es dans cette communion véritable avec le Seigneur, la première chose que tu vas avoir quand tu as péché contre Dieu ou contre un frère, c'est que ton âme s'attriste.
Automatiquement.
Ton âme s'attriste. Et c'est le seul désir que tu as donc à ce moment précis, c'est d'aller vers le frère et lui demander
la réconciliation.
On comprend donc que dans l'église véritable des enfants de Dieu, on ne peut pas avoir un problème de discorde, un problème d'incompréhension, un problème surtout de séparation. Puisque même là où tu es, le Saint-Esprit va te convaincre qu'il faut aller réparer.
Donc voilà, cet autre aspect. Il dit que la tristesse selon Dieu produit la repentance, la tristesse selon le monde produit la mort. Donc quand on est dans le Seigneur, l'état l'état mauvais dans lequel on se trouve va forcément nous obliger à entrer dans la repentance, parce qu'on a le souci de garder la bonne communion avec le Seigneur. À moins que nous soyons dans une situation où on ne reste pas la communion avec le Seigneur, à ce moment-là, on n'est plus enfant de Dieu.
Ah oui,
un véritable enfant de Dieu veut garder le cap avec son père. Quel est cet enfant qui peut passer un mois, deux mois dans une situation sans garder la communion, sans parler à son père, sans parler à sa mère, en restant et en attendant, en gardant la même attitude? Non, nous allons vers le Père. La tristesse du péché nous amène à la repentance. Et comme disait le pasteur, comme tout à l'heure, un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il a péché, n'est pas tranquille. Parce que le péché, le tourment, le roi David disait que tant que je me suis tué, mes os se consumaient. C'est-à-dire qu'il y avait un chagrin dans sa chair, il y avait une douleur au fond de lui-même, qui était liée au fait que son péché n'était pas avoué. Il n'avait pas déclaré son péché. Et il y a plusieurs qui peuvent vivre dans la tristesse du péché. Ils font des choses en cachette.
Ils rient même.
Ils rient. Ça ne leur dit absolument rien. Et puis bon, ils vont continuer à rendre ministère dans l'église. Et comme disait aujourd'hui, comme il y a tellement de formalisme et d'activisme, on fait les choses, on fait. Mais peut-être, pasteur Koum, alors qu'il nous reste 10 minutes dans le cadre de ce programme, mais c'est pas pour ça que les chrétiens sont tristes aujourd'hui.
Non, pas pour ça. Bien que le Seigneur nous a appelés à la tristesse, un pasteur nous utilise dans le livre de Jean chapitre 16, verset 20, nous allons nous rendre compte dans Jean 16, 20, que le Seigneur a même fait de cet état de tristesse une sorte de promesse pour les chrétiens. Vous serez tristes. Le Seigneur a dit que vous serez tristes. On peut lire dans Jean chapitre
16, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Donc c'est véritablement une promesse que la tristesse arrivera.
Oui.
Il y aura fortement la tristesse dans votre marche avec le Seigneur. Mais c'est une tristesse qui se changera en joie. Mais le monde aujourd'hui, comme on va le voir, où les chrétiens aujourd'hui sont entrés dans la tristesse à cause des choses de la terre.
Pas à cause de l'œuvre de Dieu.
À cause de l'œuvre de Dieu.
Non, la plupart des chrétiens aujourd'hui ne sont pas tristes à cause de l'œuvre de Dieu. Ils sont, comme je vous dirai à l'église, ils sont tristes à cause de César. Le frère va venir te dire que on m'a pas augmenté au bureau et son cœur a insisté. Il va venir te dire que il y a un collègue qu'on veut nommer à ma place. Il va venir te dire que on a réduit mon salaire. Il va venir te dire que il est malade. Il va venir te dire, et c'est tout ça qui est la cause de la tristesse et de l'abattement des chrétiens, et pas la cause véritable qui aurait aimé toucher le cœur du Seigneur, c'est-à-dire l'œuvre dans laquelle nous sommes, notre engagement, et supporter les douleurs qui peuvent y arriver.
Il verse des larmes pour les choses de la terre. Il ne verse pas des larmes pour les choses qui préoccupent Dieu. Alors, ils ne verseront pas de larmes pour le malheureux.
Non.
Ils ne verseront pas de larmes parce qu'un frère est en train de se perdre. Ils ne verseront pas de larmes parce qu'ils sont en train de tenir ferme dans la foi et la situation est difficile. Non, ils ne verseront pas de larmes pour ça. Ils verseront des larmes pour l'enfant qu'ils n'ont pas. C'est pour ça qu'ils pleurent devant le Seigneur. Et ils pleurent devant le Seigneur parce qu'on leur a refusé le visa. Ils pleurent devant le Seigneur parce qu'ils n'ont pas eu le succès à leur examen. Voilà tout ce qui les amène à pleurer, à être tristes.
Voilà. C'est ça qui rend aujourd'hui les chrétiens tristes. C'est pour dire donc en conclusion déjà, c'est pour dire déjà que l'œuvre de Dieu ne préoccupe pas les chrétiens. C'est pour ça qu'ils sont tristes. L'œuvre de la prédication de l'évangile, l'œuvre de l'évangélisation ne préoccupe pas les chrétiens. C'est pour dire que la communion fraternelle ne préoccupe pas le chrétien. Les gens sont habillés déjà dans leur vie, dans ce monde capitaliste, pour la recherche de leur intérêt et de leur intérêt personnel. Donc, il ne peut pas être triste de voir un frère indigent, un frère qui avait un bon travail, qui n'en a plus, et qui a aidé les autres frères. Non, cela ne les affecterait pas pour pouvoir aider ce frère à pouvoir sorti de la situation de
chacun veut réussir seul, chacun veut bâtir son univers par sa gloire personnelle, par sa recherche c'est pour ça que si je, aujourd'hui si je suis le seul dans l'église à avoir une voiture, il n'y a pas de problème tant que moi je suis le seul à avoir. Donc si c'est quelqu'un d'autre qui avait et que moi je n'en avais pas, je développerais les jalousies et les envies et je dirais pourquoi est-ce qu'il a la voiture, il pouvait vendre la voiture et partager.
Mais après on va entrer dans les dettes,
voilà.
Et ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, bien évidemment, et après on ne se suffira plus, on donnera plus de dîmes, on ne fera plus rien pour l'œuvre de Dieu, et on est tous les jours tristes, et quand tu vas demander, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est le travail, c'est ceci, c'est cela, mais jamais c'est l'engagement au service du Seigneur et les peu qui en découlent. Non, c'est pas ça qui nous rend triste, mais c'est tout ce que nous avons dit avant.
Alors, chers amis auditeurs de Radio Vie Nouvelle, qui vous rend triste, êtes-vous triste à cause des choses de la terre ou triste à cause des choses du royaume? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Qu'est-ce qui vous attriste? Quelles sont les situations pour lesquelles vous versez plus de larmes? Est-ce parce que est-ce des choses qui préoccupent le cœur de Dieu, ou alors des choses qui vous préoccupent dans votre personne physique, ou le désir de la satisfaction égoïste de vos besoins personnels? Est-ce ces choses-là qui vous attristent? Ayez la tristesse de Dieu.
Et pour cela, donc, nous devons savoir que la tristesse de Dieu, c'est par rapport à son œuvre, à son âme pour le salut et à son âme de prendre en charge tous ceux qui sont dans des situations difficiles. Et, bien aimé, cette tristesse te pousse à l'œuvre de Dieu. Cette tristesse te pousse à regarder au Seigneur, sachant que la paix de Dieu est continuellement en toi, parce que cette tristesse procure la paix et t'amène très facilement à la repentance, parce que cette tristesse te montre à voir que les hommes ne te condamnent pas, parce que Dieu lui-même ne t'a pas condamné.
C'est pourquoi mieux vaut souffrir selon Dieu que souffrir selon le monde. Si vous êtes triste à cause des choses du royaume, ne vous inquiétez pas, le Seigneur l'a promis dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans le chapitre 16, verset 20.
Que nous serons tristes.
Nous serons tristes, mais notre tristesse se changera en joie. Tant que nous sommes sur cette terre, il y aura toujours des situations qui nous attristent. D'abord parce que nous sommes humains, mais ensuite parce que nous sommes enfants de Dieu, les choses du royaume vont nous attrister. Choisissez ce soir, chers amis, d'être attristés pour les choses qui préoccupent Dieu, que pour les choses que vous voulez absolument posséder et qui finissent par vous posséder.
Voilà, et qui finissent par vous posséder, comme tu as dit si bien, Noé. Parce qu'on se retrouve dans un engrenage dans lequel on commence à se plaire, mais on sait déjà au-dedans de soi-même qu'on est en train de se tromper et de vouloir tromper Dieu.
Voilà, c'était le thème de la discussion de ce soir, madame, messieurs. Le chrétien peut-il être triste? On l'a dit, oui. Et pour quelles raisons? Nous l'avons également dit. Nous sommes en train de terminer. Plus que deux minutes dans le cadre de ce programme. Nous avons quelques annonces à vous communiquer. Parce que comme déjà la première annonce est dans quelques jours, dans une semaine et demie.
Oui, on sera avec le groupe Job, qui est le groupe de louanges. Job, c'est Jesus Our Best Story, qui va, pour ceux qui n'avaient pas été à la première prestation, ce sera ici le 31 décembre, dans le mars, à partir de 15h. Vous êtes vraiment invités à venir passer un moment de célébration, d'accès de grâce et de reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il est Dieu et il n'y a point de semblable à lui. Et nous voulons vous dire que l'entrée est gratuite, l'entrée est gratuite. Vous allez passer un bon moment, profiter déjà pour voir l'ensemble du matériel, c'est tout nous, de l'église du groupe Joss, et puis de cette qualité musicale. Donc bien aimé, vous êtes invités. Nous rappelons aussi que nous avons une case de retraite à Maquette, au PK12, pour accueillir tous ceux qui veulent passer un moment avec le Seigneur. Et à Maquette, nous avons des maisons de passage pour les pasteurs étrangers, les frères, et toute personne qui marche dans la crainte de l'Éternel.
Voilà, donc, et nous rappelons également qu'il y a une grosse campagne qui se prépare en décembre pour tous ceux qui souhaitent se joindre à l'équipe. ils sont les bienvenus. Pour toute autre question, pour toute remarque, vous pourrez appeler le pasteur Emmanuel Koum au 70 78 78 87 ou au 94 35 44 54 Koum 01 @yahoo.com. C'était un plaisir, madame, monsieur, de vous servir ce soir, le pasteur Emmanuel Koum. Un mot de la fin.
Ben, que le Seigneur vous bénisse. Soyez pas triste pour les choses de la terre qui sont passagères, mais soyez triste parce que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Et cette tristesse va vous pousser à l'action. Cette tristesse va vous pousser à engager, à servir le Seigneur et à accomplir des choses grandes pour lui. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. À mardi prochain, s'il vous plaît, au Seigneur. Portez-vous bien, gardez vos cœurs dans la pureté et que le Seigneur vous bénisse.
Ta douce voix nous demande d'espérer. Tu nous conduis dans ton royaume pavé d'or, là où tes grâces nous ouvrent d'entrer. Tendre et véritable l'ami.
Au rythme de Dieu, la coupe de CBC Mac et Israël sous la direction de son pasteur Emmanuel Koum vous conduit tous les mardis entre 20h30 et 21h30 à une réflexion sur la vie chrétienne aujourd'hui. Au rythme de Dieu, c'est les messages, prédications, enseignements, débats, conférences, interactivités, le tout arrosé par de la très bonne musique. Notez le rendez-vous mardi 20h30, 21h30. Venez et ensemble, marchons à la suite du Jésus. Yeah.